de façon immémoriale, le résumé de la foi proclamée au baptême dans l'Église latine est appelé symbole des apôtres. Dans sa conférence, le cardinal Ratzinger en a parlé comme l'une des quatre pièces maîtresses d'une structure catéchétique dont le noyau remonte aux origines de l'Église, les trois autres étant les sacrements, le décalogue et la prière du Seigneur. Une première question, le symbole remonte-t-il aux apôtres? L'attribution de chaque article à un apôtre particulier est une exagération qui relève de la légende. Mais la composition concertée d'un symbole de la foi par le collège des apôtres est solidement attestée par le père de l'Église. Ainsi Tertullien écrit en 200. Avançons dans cette règle de foi. L'Église l'a reçu des apôtres du Christ et le Christ de Dieu. Origène, au IIIe siècle, affirme « Il faut savoir que les saints apôtres, prêchant la foi du Christ, ont transmis en termes manifestes les points de doctrine qu'ils estimaient nécessaires. » Saint Ambroise de Milan, donc mort en 397, écrit ceci dans son explication du symbole. Si rien ne peut être enlevé des écrits d'un seul apôtre, comment oserions-nous entacher le symbole que nous avons reçu dans sa tradition et dans sa composition des apôtres? Voici que selon les 12 apôtres, 12 sentences ont été exprimées. Quant à Rufin d'Aquilée, il écrit vers l'an 400, nos anciens rapportent, et donc le mot en latin c'est tradunt, qui a donné le mot tradition. Donc nos anciens rapportent qu'après l'ascension du Seigneur, lorsque le Saint-Esprit se fut reposé sur chacun des apôtres sous forme de langue de feu, afin qu'ils puissent se faire entendre en toutes les langues, ils reçurent du Seigneur l'ordre de se séparer et d'aller dans toutes les nations pour prêcher la parole de Dieu. Avant de se quitter, ils établirent en commun une règle de la prédication qu'ils devaient faire, afin que, une fois séparés, ils ne fussent exposés à enseigner une doctrine différente à ceux qu'ils attiraient à la foi du Christ. Étant donc tous réunis, remplis de l'Esprit Saint, ils composèrent ce bref résumé de leur future prédication, mettant en commun ce que chacun pensait et décidant que telle devra être la règle donnée aux croyants. Pour de multiples et très justes raisons, ils voulurent que cette règle s'appelât symbole. C'est donc dans son commentaire du symbole des apôtres, et c'est dans cet écrit que se trouve le premier texte latin du symbole. Citons encore saint Jérôme. Le symbole de notre foi et de notre espérance fut transmis par les apôtres. L'Orient, et particulièrement l'Église grecque, n'a pas conservé une tradition aussi nette de l'origine apostolique du symbole telle que nous le connaissons. Donc on peut se reporter pour cela à une intervention d'un évêque d'Église orientale au Concile de Florence en 1438. Des études ont été faites et beaucoup de manuscrits ont été découverts, grâce auxquels nous pouvons dire que le symbole des apôtres est attesté dès le 2e et 3e siècle par beaucoup de textes différents. De plus, l'Église de Rome a gardé avec soin cette tradition au sujet de ce symbole, qui est l'ancien symbole baptismal de l'Église de Rome. Sa grande autorité lui vient de ce fait. Saint Ambroise nous dit « Il est le symbole que garde l'Église romaine, celle où a siégé Pierre, le premier des apôtres, et où il a apporté la sentence commune. » Au IVe siècle, nous le trouvons entièrement transcrit en latin par Rufin, comme nous venons de le dire, et aussi en grec par Marcel, évêque d'Ancyre, dans une lettre qu'il écrit en 340 au pape Jules pour l'assurer de sa communauté de foi avec l'Église de Rome. Le catéchisme du Concile de Trente, rédigé sous la direction de Saint Charles Borromée et approuvé par le pape Pie V, a jugé que la tradition était suffisamment ferme pour pouvoir affirmer à son sujet en 1566 ce que les chrétiens doivent savoir tout d'abord. Ce sont les vérités que les saints apôtres, nos maîtres et nos guides dans la foi, inspirés par l'Esprit de Dieu, ont renfermé dans les 12 articles du symbole. Après avoir reçu de notre Seigneur l'ordre d'aller remplir pour lui les fonctions d'ambassadeur et de se répandre dans le monde entier pour prêcher l'Évangile à toute créature, ils jugèrent convenable de composer une formule de foi chrétienne afin que tous eussent la même croyance et le même langage, qu'il n'y eût ni division ni schisme parmi ceux qu'ils allaient appeler à la même foi, et que tous puissent consommer dans un même esprit et un même sentiment. Et ce catéchisme ajoute encore, cette profession de foi et d'espérance chrétienne que les apôtres avaient composée, ils l'appelèrent symbole, à la fois parce qu'ils la formèrent de l'ensemble des vérités différentes que chacun d'eux formula, à la fois parce qu'ils s'en servirent comme d'une marque et d'un mot d'ordre qui leur ferait distinguer aisément les vrais soldats du Christ, des déserteurs et des faux frères qui se glissaient dans l'Église pour corrompre l'Évangile. Deuxième question, qu'est-ce que la règle de la foi? Le cardinal Ratzinger parlait de la règle de la foi qui semble se distinguer du symbole de la foi. Qu'est-ce que cette règle, dont on parlait aussi les pères de l'Église, comme nous venons de le dire? Pour mieux comprendre l'expression « règle de la foi », nous pouvons lire le rêve de sainte Monique, voyant son fils Augustin debout à ses côtés sur une règle de bois, image de la règle ferme de la foi. Donc c'est cet objet que se servent tous les enfants qui étudient. Augustin lui-même interprète ainsi le sens de cette règle vue par Monique. Donc dans son livre des Confessions, il dit « J'étais debout sur la règle de la foi ». La règle de la foi et le symbole de la foi sont donc deux réalités qui se rejoignent. Voici ce que Benoît XVI dit à ce sujet dans son enseignement sur Saint-Irénée en 2006. Au centre de la doctrine de Saint-Irénée se trouve la question de la règle de la foi et de sa transmission. Pour Irénée, la règle de la foi, il faut savoir donc que Saint-Irénée a vécu à Lyon aux alentours de l'année 177. Donc, pour Irénée, la règle de la foi coïncide pratiquement avec le credo des apôtres. Et elle nous donne la clé d'interprétation de l'Évangile, de l'interprétation du credo à la lumière de l'Évangile. Le symbole des apôtres, qui est une sorte de synthèse de l'Évangile, nous aide à comprendre ce qu'il veut dire, comment nous devons lire l'Évangile même. La vérité et le salut ne sont pas le privilège et le monopole de quelques-uns, mais tous peuvent les atteindre, grâce à la prédication des successeurs des apôtres et principalement de l'évêque de Rome, donc grâce à ce symbole que tout le monde peut apprendre et retenir. Développons un peu ce point, le symbole est une synthèse fidèle de l'Évangile. Voici la présentation que fait saint Cyril de Jérusalem du symbole de la foi. Cette synthèse de la foi n'a pas été faite selon les opinions humaines, mais de toute l'Écriture a été recueilli ce qu'il y a de plus important pour donner au complet l'unique enseignement de la foi. Et comme la semence de Sénévé contient dans une toute petite graine un grand nombre de branches, de même ce résumé de la foi renferme-t-il en quelques paroles toute la connaissance de la vraie piété contenue dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Le symbole conduit donc aux vérités essentielles selon un plan trinitaire. Dieu créateur, que Jésus révèle comme le Père, ensuite Jésus-Christ, son Fils unique, qui accomplit les prophéties de l'Ancien Testament à travers son incarnation miraculeuse, sa passion rédemptrice et sa glorification, et l'Esprit Saint que Jésus a fait connaître à ses apôtres et qu'il leur a envoyé d'auprès du Père pour leur permettre de fonder l'Église, de se rappeler tout ce qu'il leur a enseigné et d'en être les témoins dans la perspective eschatologique de la fin des temps. Le symbole est aussi la clé d'interprétation de l'Évangile. Il en indique la visée ultime, le salut qui procède de l'amour de charité. Il ne s'agit pas de mettre bout à bout des connaissances historiques sur un penseur formidable, mais à saisir le dessein divin qui traverse les siècles et à s'y impliquer par une adhésion qui engage notre être entier. Il écarte les opinions divergentes des Juifs, comme plus tard celles de toute autre personne au sujet de la Bible. Et il manifeste l'accomplissement des Écritures en Jésus, selon ce que transmet l'Église, à partir des témoins désignés d'avance par Dieu, c'est-à-dire les apôtres, comme le dit le livre des Actes, chapitre 10, verset 41. Il donne la seule interprétation valable de l'Évangile, en dehors de laquelle il n'y a pas de foi apostolique, et donc pas d'Église telle que Jésus l'a voulu. Ainsi, le symbole ne se surajoute pas à l'Évangile, mais il structure, pour mieux transmettre la foi, les vérités de la foi. Quelle place lui a-t-on fait dans la liturgie? L'annonce de l'Évangile met en valeur l'importance de la foi pour être sauvé. Mais comme nous ne pourrons pas tout savoir d'un coup, et que beaucoup de mystères seront à explorer toute notre vie, et à contempler toute l'éternité, que faut-il absolument retenir? Que faut-il absolument transmettre en faisant jouer son rôle à la mémoire? Les catéchumènes reçoivent au cours d'une liturgie le symbole baptismal, le symbole de la foi à laquelle il leur faudra être fidèle toute leur vie. Dans la liturgie romaine, par exemple, le symbole des apôtres était solennellement remis lors de la tradition du symbole. Donc c'était une petite cérémonie. Donc en latin, ça se dit traditio symboli. Le chrétien doit ensuite le rendre à Dieu et le retransmettre devant ses frères intact. C'est la reddition du symbole. Donc en latin, il y a un jeu de mots et c'est reddition symboli. Donc reddition, traditio, reddition. Il s'agit là d'un rite très important de la liturgie baptismale, commenté par saint Augustin dans quelques sermons célèbres. Ce symbole a-t-il joué son rôle dans la transmission de la foi? Saint Irénée, évêque de Lyon en 177, est témoin extraordinaire de cette fidélité avec laquelle l'Église s'applique à la transmission de la foi depuis l'origine. Je vous donne quelques exemples qui vous montrent que dès l'origine, cette transmission a été très fidèle. Il rapporte l'attitude énergique de saint Jean et celle de saint Polycarpe qui avait connu saint Jean. Donc saint Jean d'abord. Saint Irénée nous dit « Jean, le disciple du Seigneur, étant allé au bain à Éphèse, aperçut Séreinte à l'intérieur. » Donc c'était un hérétique. Il bondit alors hors des termes sans s'être baigné, en s'écriant « Sauvons-nous de peur que les termes ne s'écroulent, car à l'intérieur se trouve Séreinte, l'ennemi de la vérité. » Et au sujet de Polycarpe, donc il souligne l'autorité de Polycarpe, qui fut disciple des apôtres et vécut avec beaucoup de gens qui avaient vu le Seigneur. C'est encore par des apôtres qu'il fut établi pour l'Asie comme évêque dans l'église de Smyrne. Or, il enseigna toujours la doctrine qu'il avait apprise des apôtres, doctrine qui est aussi celle de l'Église, celle que l'Église transmet et qui est la seule vraie. À Marcion, qui qui l'abordait un jour et lui disait « Reconnais-nous ?»« Je te reconnais, répondit-il, pour le premier-né de Satan. » Si grande était la circonspection des apôtres et de leurs disciples, qu'ils allaient jusqu'à refuser de communier, même en parole, nous dit Irénée, avec l'un de ces hommes qui falsifiait la vérité. Donc on trouve cela dans le livre « Contre les hérésies », livre 3, chapitre 3. L'intérêt de cette citation est de montrer que l'Église est dotée depuis son origine d'une aptitude à discerner sans cesse ce qui appartient au dépôt de la foi qu'elle doit transmettre et ce qui ne l'est pas. On ne la voit absolument pas portée à la fiction. Le Seigneur Jésus-Christ lui permet de rester fidèle dans son ensemble par un énergique attachement à la foi des apôtres. Et le caractère bref, synthétique et dépouillé du symbole des apôtres en est un vigoureux exemple. Pour terminer, disons que c'est cet attachement sans faille dans la tradition, chaînon après chaînon, qui nous relie d'une façon sûre à ce que le Christ a confié aux apôtres, qui a touché le cardinal Newman. Lorsqu'au cours de ses recherches pour démontrer les erreurs de l'Église catholique, lui qui était encore anglican, lui qui deviendra donc le grand cardinal John Henry Newman, il constata par ses études la solidité de cette transmission et il commença alors à douter de la valeur de l'anglicanisme. Il porta alors son attention sur le développement du dogme et bientôt, pleinement convaincu, il entama un processus de conversion à la foi catholique. Il sera béatifié en septembre par Benoît XVI en Angleterre. Nous pouvons lui demander de nous aider à être fidèles au symbole des apôtres, qui est un instrument en vue de la fidélité dans la transmission de la foi.